Bonsoir, merci d'être tous venus ce soir. Merci Édouard Launay d'être venu. Alors Édouard Launay, vous êtes journaliste à Libération et vous rédigez depuis maintenant 10 ans des chroniques humoristiques et assez acides sur le milieu littéraire qui s'appelle « On achève bien d'imprimer » à la demande de Claire Devarieux. Et vous publiez dans la belle collection du Café Voltaire chez Flammarion un recueil de ces chroniques qui s'appelle « Écrivains, éditeurs et autres animaux ». Où vous brocardez tour à tour le jury Goncourt, Michel Houellebecq, l'Académie française. Alors c'est très plaisant parce que on se dit il y a un tel foisonnement, une telle vie littéraire en France qu'on se demande pourquoi il n'y a pas plus de vocation de caricaturiste tellement c'est parfois extrêmement drôle. Et alors vous êtes aussi scientifique. Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, il y a aussi Hervé Le Tellier, je crois, qui est mathématicien, et puis Joël Martin, qui fait les contrepétries du Canard enchaîné. Donc je vais vous prendre un peu au dépourvu, je sais que vous appréciez la critique en littérature, la critique universitaire, donc la science littéraire, je crois qu'on peut le dire. Et j'aimerais bien vous l'entendre dire, est-ce que... vous aimez la critique universitaire parce qu'elle propose mille manières, vous le dites, d'entrer dans un livre. Est-ce que vous pourriez nous proposer une manière d'entrer dans votre livre ?
Bonsoir. Oui, je... Juste un petit mot sur moi. Mon premier métier, c'était ingénieur. Et donc, la littérature est venue plus tard. Moi, j'avais du goût pour les sciences. Et donc, après ingénieur, j'ai fait journaliste scientifique. Et puis après, la vie étant ce qu'elle est, maintenant, je suis plutôt journaliste dans le domaine culturel. Voilà. Mais j'ai gardé cet intérêt pour les sciences, j'ai fait quelques essais de vulgarisation. Et s'il y a bien un domaine scientifique dans la littérature, c'est la théorie littéraire, qui est un domaine absolument fascinant. Vous n'imaginez pas le nombre d'articles scientifiques, enfin scientifiques entre guillemets, qui se publient sur la littérature, sur l'emploi du point-virgule chez Marcel Proust, ou on fait des articles absolument formidables. J'avais fait un petit bouquin là-dessus dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de considérer la littérature, c'est de la considérer avec un œil de chercheur. Et puis il y en a un autre qui est de considérer la littérature, ça c'est le mien, par le petit bout de la lorgnette, en regardant un peu le milieu littéraire avec un peu d'ironie. Enfin, j'essaye tout au moins. Et c'est ce que j'essaie de faire 10 ans. On m'a demandé de faire chaque semaine une chronique, en jetant un regard aussi naïf que possible sur ce milieu. Milieu qui est très circonscrit, hein, puisque géographiquement, vous avez tous entendu parler de Saint-Germain-des-Prés, c'est quelques rues autour du boulevard Saint-Germain, où ne sont pas tous les éditeurs français, fort heureusement, mais il y en a quand même un paquet. Et donc, quand on observe ce petit milieu, ces maisons d'édition, les restaurants où ils vont manger, un milieu où il y a des écrivains, des éditeurs, des attachés de presse, des responsables des droits étrangers, de fabrication, etc. Ce petit milieu est assez attachant. Il y a plein de gens formidables, et puis il y a la proportion de crétins qu'il y a partout aussi. Il n'y échappe pas, mais il y a quelque chose de très attachant. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, et d'ailleurs, j'ai oublié la question.
Si je vous demandais une porte d'entrée dans votre livre.
Sincèrement, j'ai écrit en essayant de faire sourire. Voilà, je ne sais pas si... Mais c'est principalement pour amuser et pour m'amuser.
Voilà. Donc c'était la question que je voulais vous poser. Il y a un humour qui traverse tout le livre. Parfois, on rit aux éclats. Et je voulais vous demander si cet humour était... un petit peu pédagogique, un peu didactique, comme on apprend au lycée, ou simplement jubilatoire.
D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui prêtent à rire. Enfin, une réunion du jury Goncourt, c'est quand même quelque chose d'assez drôle. Quand on connaît les enjeux, les pressions qui s'exercent sur les membres, le résultat qui sort les prix, c'est une grande comédie. Enfin, je n'apprends rien à personne. Et là, s'il récompense rarement les meilleurs livres. Mais en tout cas, ça fait une effervescence, ça aide la librairie à vendre des livres, ce qui est déjà pas mal, donc autant que ça continue. Mmh.
Donc pour vous, un prix se justifie s'il contribue à faire vendre un peu. Parce que je voulais vous demander, on sent une dénonciation un peu du milieu des prix, etc., mais quel serait un autre moyen que les prix littéraires pour faire émerger des valeurs littéraires ? À part
je ne dénonce rien.
Ouais.
Ça, c'est une question très intéressante. C'est au début du XXe siècle, on savait quels avaient été les grands romanciers du 19e. Dès le début du 20e siècle, on savait que ça avait été Flaubert, Zola, Balzac, etc. Et au début du 21e, on y est. Quels ont été les grands littérateurs français du 20e ? Ça, c'est une question qui est posée, c'est la question de la valeur de la littérature. En gros, à cette question, on a répondu. Pas la critique littéraire, pas la critique journalistique, mais la critique universitaire, ce qu'on appelle donc, l'université qui se penche sur les valeurs de la littérature, qui travaille plutôt sur une échelle d'un siècle plutôt que sur l'échelle d'une rentrée littéraire. Et ils ont répondu. Et à votre avis, qui sont les grands littérateurs du 20e siècle en France ? Il y en a deux.
Proust et Céline.
Proust et Céline, ouais. Alors, qui donne cette réponse ? D'abord, les libraires qui vendent des éditions originales, parce que la cote des éditions originales varie en fonction de la valeur littéraire. Et les éditions originales de Proust et Céline, surtout du voyage, atteignent des prix incroyables. À un moment, celle de Gide valait très très cher. Et puis Gide a plongé. Et en même temps que sa valeur littéraire, d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il y a des ajustements comme ça. Après, il y a d'autres indices, c'est qui rentre en Pléiade ou qui n'y rentre pas. Ça, il faut se méfier, parce que la Pléiade est... Par exemple, il y a un gros débat sur faut-il faire entrer Drieux-La Rochelle dans la Pléiade, qui est finalement rentrée. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de débats, à la fois politiques, moraux et littéraires. Et je sais qu'un des responsables de la Pléiade pensait que littérairement, Drieux ne méritait pas de rentrer dans la Pléiade. Bon. Les débats sur la valeur littéraire sont aussi parasités par des débats politiques. En ce qui concerne Drieux, c'était un peu normal de s'interroger sur la légitimité du garçon dans la Pléiade. Mais je crois que pour répondre finalement à cette question, la valeur littéraire, c'est surtout la critique universitaire qui la fixe. Et elle prend son temps, mais elle va de plus en plus vite.
D'accord. Donc ce qui condamne les écrivains de leur vivant à ne pas être reconnus, puisque vous dites qu'il y a ce délai qu'impose la critique universitaire.
Oui, mais ça peut aller vite. Et puis la critique universitaire ne s'occupe pas seulement de Claude Simon ou Marguerite Duras, elle s'occupe beaucoup de Michel Houellebecq. Aujourd'hui, Michel Houellebecq a une aura absolument incroyable dans la critique universitaire, surtout étrangère. Mais du coup, voyant l'intérêt que ça suscite dans l'université étrangère, il y a beaucoup de chercheurs français en littérature qui s'intéressent maintenant à Houellebecq, peut-être trop.
D'accord. Bah oui, Chevillard aussi a eu son colloque récemment, Toussaint.
Oui,
quelques Modiano a aussi eu cette reconnaissance très tardive.
Oh, en ce qui concerne Modiano, peut-être pas. Enfin, Modiano, maintenant, fait partie des valeurs littéraires, je pense, reconnues.
Non, mais je voulais dire qu'il a eu des colloques universitaires, mais c'était assez tard, je crois. C'était en 2007-2008, les premiers.
Parce qu'avant, c'était plutôt
les pages de elle. Enfin, bref. Ouais. Vous êtes assez critique envers certains écrivains. Bon, alors avec ironie, c'est toujours assez drôle. Mais est-ce que vous trouvez que le pamphlet est une tradition qui s'est un peu perdue ? Parce qu'aujourd'hui, on a quelques pamphlétaires qui sont parfois un peu mis au banc du milieu littéraire, qui sont Pierre Jourde, éventuellement. Éric Chevillard, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de positif dans la critique littéraire aujourd'hui ?
Oh, je ne pense pas que Jourde et Chevillard soient vraiment au banc de...
Non, mais
ils s'expriment. Jourde est publié chez Gallimard. Ouais. Chevillard, une critique dans Le Monde. Une chronique dans Le Monde. Non. Je crois que la plus grande acidité sur le milieu littéraire, elle est venue des écrivains eux-mêmes. Je veux dire, le journal des Goncourt, c'est quand même quelque chose de formidable. La littérature à l'estomac de Julien Gracq, c'est vraiment des choses frontales. Elle est là, la vraie critique sur le milieu littéraire. Elle vient des écrivains eux-mêmes. Alors, est-ce qu'il y a encore des textes d'écrivains de la qualité de la littérature à l'estomac ? Peut-être pas, je ne les ai pas lus, mais...
Peut-être parce que Jourde aussi a écrit un livre qui est justement une allusion directe à Gracq.
Ouais.
Qui est La littérature sans estomac, qui est un livre très drôle. Mais je disais mise au banc parce qu'on sent qu'ils sont quand même pas dans ce que vous appelez ce que l'on appelle le milieu littéraire et qui est un peu le Saint-Germain-des-Prés que vous observez dans vos chroniques.
Qui ça
Je veux dire, Jourde et Chevillard sont un petit peu quand même. Chevillard habite Dijon, mais.
Non, ils sont dans le milieu littéraire.
Vous trouvez qu'ils sont dans le...
Ah oui.
Et alors, est-ce qu'il y aurait des écrivains aujourd'hui, pour vous, qui sont vraiment totalement hors système ?
Bon, la plupart.
Et qui méritent l'intérêt ? La plupart ?
Je pense. Je ne sais pas, mais enfin moi, je suis pas critique littéraire, mais j'ai lu quelques bouquins de la rentrée, et les très beaux livres, c'est des livres de, je sais pas, moi, chez Verdier, un truc qui s'appelle Rien, là, Emmanuel Venet, je sais pas si vous avez lu ça, mec pas connu, qui est un texte formidable, ou un texte chez Buchet-Chastel qui s'appelle Sauf les fleurs.
Sauf les fleurs, de Nicolas Clément, je crois, c'est ça ?
Ouais. Ouais. Qui parle de ce type-là. Alors, on parle de Yann Moir, on parle de... Desnels, mais c'est pas forcément les textes les plus intéressants. Mais enfin bon, c'est le travers du système, on le connaît. Mais ce qui serait dommage, c'est qu'en fin d'année, les bons textes n'aient pas trouvé leur lecteur. Le livre qui m'a soufflé l'année dernière, c'est un livre chez Verdier aussi qui s'appelait Esquisse d'un pendu de Julien, un type qui s'appelle Michel Julien. Ouais. Bon,
ah oui.
On en a. Pas tellement. Est-ce qu'il a eu un prix ? Il me semble pas. Non, il n'a rien eu. C'était un livre absolument formidable. Alors là, c'est un peu gênant parce que les livres sortent à la mi-août et si fin décembre, ces très bons textes dont personne n'a parlé, hélas, n'ont pas trouvé leur lecteur, là, il y a un gâchis phénoménal, quoi. Et c'est le cas à peu près chaque année.
Bah oui, parce qu'il y a des éditeurs qui sortent des livres qui n'en vendent même pas 100, même de grands éditeurs comme Gallimard. Ils peuvent sortir des livres qui se vendent à 200 exemplaires. Ça, les gens ne le savent pas trop. Alors, vous faites référence dans votre avant-propos aux racines du quartier de Saint-Germain-des-Prés, qui était une foire où chacun essayait de vendre un peu sa charcuterie. Et donc, vous comparez aujourd'hui le trafic des maisons d'édition un peu à cette foire. Et j'avais envie de vous demander, selon vous, quelle responsabilité a dans cette surenchère l'abondance de la publication. C'est-à-dire, avant qu'il y ait ces 600 romans par rentrée littéraire, est-ce qu'il y avait ce besoin de surenchère de chaque maison ? Puisque les critiques avaient finalement, à une époque, le temps de lire quasiment tout ce qui sortait.
Je me moque de ce milieu, mais je l'aime bien. Et en plus, je trouve qu'il fonctionne pas mal. Parce que... L'édition se porte plutôt bien en France. On a une offre, peut-être pléthorique, mais il y a quand même beaucoup de choses de qualité. Alors, le système fonctionne actuellement, c'est comme un casino, c'est-à-dire on balance des jetons à travers toute la table, 555 là, à la rentrée, en espérant qu'il y en a un qui va tomber sur le bon numéro. Bon. Et les numéros qui sortent se vendent outrageusement bien, et par un système de péréquation, font vivre les autres, ceux qui vont trouver 10 lecteurs, 100 lecteurs. Enfin, un bon livre de littérature aujourd'hui se vend, disons, à 3000. Il y a 10 ans, c'était 5000. Et dans 2 ans, ça sera peut-être 2000. Mais le système est comme ça, c'est-à-dire qu'on balance les jetons. Alors, hélas, là-dedans, il y a beaucoup de livres qui ne sont pas édités. C'est-à-dire qu'on a l'impression de livres qui n'ont pas été relus, qui n'ont pas vu un éditeur, et donc qui ne mériteraient pas d'être là. Mais bon, on est dans ce système un peu de surabondance. On pourrait évidemment, qui marche à peu près, hein, qui marche. Mais on pourrait se dire, bon, il y a quand même du gâchis, il faudrait quand même proposer moins, peut-être seulement 200 bouquins au lieu de 500, faire plus attention en texte, etc. C'est vrai, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais pour autant, je trouve pas que le système dysfonctionne aujourd'hui. Ouais. Ça donne sa chance à certains bouquins. Il y a une part de hasard, je le disais tout à l'heure. Il y a des bons textes qui passent à travers, mais en gros, ça fonctionne. Si on regarde à l'étranger, c'est quand même très différent. La rentrée littéraire, c'est spécifiquement français. Ça n'existe pas à l'étranger. Dans la plupart des pays du monde, le livre, c'est un luxe. Je parle de la Colombie parce que je connais un peu. Un livre en Colombie, ça vaut entre 15 et 20 euros. Et le salaire mensuel moyen en Colombie, c'est 300 euros. C'est-à-dire que quand un type se paye un livre, il a fait une dépense énorme. En France, bon, on trouve des poches pas très chères. On n'a pas l'impression de faire la dépense du mois quand on achète un roman, même un roman broché. Donc ça, il faut être conscient de ça. C'est qu'on vit dans un pays extrêmement privilégié à tout point de vue. Sur l'offre, sur le prix... La librairie marche encore à peu près. Enfin, les bonnes librairies indépendantes marchent encore à peu près. Pourvu que ça dure. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que le tableau soit si noir que ça.
Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de mal de la rentrée littéraire, mais elle a le mérite de quand même mettre la loupe sur la littérature, et ça de manière quasiment extra-littéraire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les journalistes, au-delà du milieu littéraire, vont se pencher à cette période sur la littérature, et je crois que c'est assez unique dans notre pays. Enfin, je veux dire,
oui, surtout quand on rapporte ça au chiffre d'affaires de l'édition, qui est tout petit, c'est un secteur industriel, mais qui a une exposition publique énorme. Teresa Crémisi, qui dirige Flammarion, raconte toujours, elle est étonnée parce qu'elle a des rapports avec des banquiers. Et ces banquiers lui disent, mais c'est formidable l'édition, vous filez un prix Goncourt, on en voit partout, aux 13h, aux 20h, il y a des articles de journaux, et tout ça pour un chiffre d'affaires un peu minable, alors qu'il y a des secteurs industriels qui vendent 10 fois, 100 fois plus, et dont on parle jamais. Donc il y a ce prestige encore de... Si ce n'est de la littérature, du moins de l'édition et des prix, quoi. Donc, bon.
Bah oui, heureusement, je me souviens qu'Hervé Le Tellier disait récemment que tout le secteur du livre en France équivaut financièrement à 10% du chiffre d'affaires de Renault, c'est-à-dire au marché simplement de la boîte de vitesse chez Renault.
Voilà, j'ai une autre image, mais le marché du livre en France, c'est équivalent au marché de la lingerie fine, les sous-vêtements. C'est kiff-kiff, c'est 2 milliards d'euros en gros. Et beaucoup voient plus d'avenir à la lingerie fine qu'à la littérature.
Effectivement, a priori, c'est assez pérenne, la lingerie fine. Alors, votre livre est très drôle, comme je l'ai dit, je vais le prouver en lisant un petit passage. Donc, vous inventez beaucoup de dialogues dans ce livre, et en l'occurrence, il s'agit d'un dialogue... dans la maison d'édition du Vif Écureuil, donc on imagine une petite allusion à l'écureuil avec sa noisette très économe, etc. Bon, peut-être pas. Et donc le PDG de la maison d'édition interroge une de ses collaboratrices et lui dit « Alors Christina, c'est enfin l'année des prix pour notre cher Charles de la Schnouf. » Eh bien, répond Christina, je dirais que si cet été dans la presse, Charles n'avait pas traité Edmond Charleroux d'antiquité assyrienne, s'il n'avait pas parlé de montgolfière de vanité au sujet de Dominique Fernandez, et s'il s'était abstenu de dire d'Hélène Carrère d'Ancos qu'elle était la seule congère sibérienne qui résistera au réchauffement planétaire, il aurait effectivement eu quelques chances. Mais comme Charles est incapable de la boucler, je crois qu'il faudra tout miser sur le prix 30 millions d'amis. Il n'a encore sodomisé aucune vache à ma connaissance. Alors voilà, ça me rappelle...
Les trois personnes qui sont citées, là, étaient le président du Médicis, le président du Grand Prix de l'Académie française, et Edmond Charleroux est toujours la présidente du jury Goncourt. Ce sont trois personnes qu'il faut ménager si on espère avoir un prix dans ce pays.
Tout à fait, oui. Ça me rappelle une petite citation de Chevillard qui disait « On surestime beaucoup les renvois d'ascenseurs dans les milieux littéraires parisiens. À ma connaissance, aucun cheval n'a encore consacré de livre à Jérôme Garcin. » Donc du coup, j'avais envie de vous demander quelles sont les critiques littéraires. Est-ce que vous laissez recommander par certaines critiques, à part Libération, bien sûr.
Oui, forcément. Oui. Il y a des gens dont je sais que les goûts sont proches des miens. Mais c'est peut-être pas ça qui me détermine le plus. Je sais pas comment. D'abord, on a des fidélités à des auteurs. Je sais pas, moi j'aime beaucoup Laura Kasichke, donc j'ai acheté son bouquin, là, qui est Esprit d'hiver, qui est formidable. Mais
vous avez parlé d'un premier roman tout à l'heure, Sauf les fleurs. Donc, quand même, vous vous penchez sur quelque chose qui n'a pas été, de mémoire, très porté par la critique. Donc, c'était un peu un hasard, comme ça
ou... Non, mais je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on entend des titres comme ça, on sait plus où on les a lus. Et puis on est dans une librairie et tout d'un coup on voit le bouquin. En plus on s'aperçoit que le bouquin fait que 100 pages, donc c'est pas le Yann Moix à 1100 pages. Donc on va, moi je vais assez naturellement sur les petits livres et c'est comme ça que je l'ai lu. Et ceux de Verdier aussi sont pas énormes, mais je désespère pas de lire le Richard Ford qui est quand même déjà plus épais.
Et donc à part ce bouche à oreille, donc pas vraiment de presse. Et est-ce qu'il y a aucun prix auquel vous fassiez confiance? Par exemple, le Médicis est quand même fait éclore des choses, des auteurs qui n'étaient pas spécialement dans le sérail, si j'ose dire.
Alors, s'il y a un prix auquel je ne ferais pas confiance, c'est le Médicis.
Ah bon? Même et le dernier, là, Emmanuel Pirard, vous le citez dans le livre.
Il faut le voir sur la durée, le prix.
Ouais, mais... D'accord.
Non, je crois que les prix sont un très mauvais indice de qualité des livres.
D'accord.
Non, sincèrement.
Et ça, vous pensez que c'est seulement à cause des relations ou c'est aussi parce qu'ils n'ont aucune faculté de jugement, les jurés?
Je vais prendre des exemples.
Dites-nous quelques
exemples. Vous avez sans doute lu, en gros, tous les prix Médicis, Femina, Goncourt, machin, truc bidule, décembre, publient une première liste. C'est-à-dire, dans l'avalanche de 550 romans, enfin en comptant les étrangers, ils publient une première liste où il n'y a plus que 10 livres. On se dit, bah, tiens, ils ont bossé. Et comment arrivent ces 10 livres ? Bon. Et quand on regarde dans les 10 livres, et je connais quelques membres de jury, je peux vous le dire, il y en a au moins 5 qui sont là parce qu'il y avait quelqu'un dans le jury qui avait un copain dont c'était la copine, etc., et qui a fait le forcing. Et je pourrais citer plusieurs titres qui sont dans... Et bon, alors ça, c'est un petit tour de piste pour la galerie. Puis après, on commence à écrémer. Et c'est vers la deuxième, troisième sélection qu'il n'y a plus que des livres, effectivement, qui sont défendus pour leur qualité et pas simplement parce que le machin est le copain de truc, quoi. Mais c'est pas normal que ça fonctionne comme ça. C'est pas...
Parce qu'il y en a beaucoup des prix, je crois qu'il y en a quand même près de 1500 en France.
Ouais.
Il y a quand même des petits prix qui sont assez hermétiques à cette... Non
de... Si, si, bien sûr. Dans les 1500, il y en a sans doute quelques-uns d'honnêtes. Celui auquel je ferais peut-être le plus confiance, mais hélas, qui couronne des bouquins assez souvent académiques, c'est, par définition, c'est le Grand Prix de l'Académie française.
Ah oui ?
Ouais, mais c'est très académique, ce qui en sort.
Bah, le dernier ne l'était pas beaucoup, Joël Dicker.
Ouais, alors là, oui.
Il y a eu un article de Baptiste Liget qui, d'ailleurs, notait les liens entre les académiciens et Bernard de Fallois, qui est aux éditions de Fallois, comme son nom l'indique.
Bon, j'enlève celui-là. Donc,
voilà. Bon, mais les autres, oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est la frontière parfois très mince, comme vous dites, entre la réalité et la fiction. Parce qu'il y a donc éventuellement des personnages très reconnaissables, voire tout à fait nommés. Bon, ça, quand ils sont nommés, c'est quand ils sont un peu fantasmés, donc on s'en rend bien compte. Mais est-ce que, éventuellement, vous attendez du lecteur qui trouve certaines clés de lecture, certaines clés dans les personnages ?
Ah, pas du tout, puisque les gens sont cités sous leur vrai nom. Alors, ils disent pas toujours ils tiennent pas des propos dans le livre qu'ils ont toujours tenus dans la vraie vie, mais ils auraient pu les tenir. Mais non, il n'y a pas de clé.
Parce que, par exemple, au Vif Écureuil, vous ne nommez pas les gens. Ou alors la Violende qui est attachée de presse à la fin. Ouais.
Alors, j'aurais pu la nommer, mais je pense que c'était un mauvais service à lui rendre que de mettre son vrai nom.
Effectivement.
Les attachés de presse, c'est un métier très important dans l'édition. C'est des gens qui savent que dans l'avalanche, il y a des bons livres et des moins bons livres. Et donc, qui vont faire pression auprès des critiques, surtout sur certains titres, et laisser tomber les autres. Avec différentes techniques pour essayer d'attirer l'attention des critiques. Alors, cette Violende, qui s'appelle Guylaine, en fait, elle en était réduite à envoyer des enveloppes qui résumaient le livre en quelques mots, mais sur l'enveloppe de l'expédition pour inciter les journalistes à ouvrir le truc. Là, on atteint quand même
des sommets.
Des sommets. Donc, c'est la seule personne dont je change le nom, parce que je me moque d'elle sur deux pages et je ne voudrais pas que ça lui nuise dans sa carrière.
Alors, je lis quand même les trois mots, parce que c'est assez amusant. Quelques mots manuscrits ajoutés à l'encre violette sur l'enveloppe, juste à côté de l'adresse du journal. Premier roman, souligné. Judéité, trouble bipolaire, filiation. Voilà. Et donc, le critique est censé... Voilà.
C'est une sorte de tiercé gagnant.
Voilà. Donc notre invité lui propose éventuellement d'autres entrées. Par exemple, Madame Bovary, infidélité, pharmacologie, produits bio. Voilà, pour résumer un peu. Les Misérables, incivilité, seconde chance, longue peine. Et un petit dernier, Le Petit Prince, art graphique, mouton, aridité. Voilà. Donc ça, c'était très amusant. Vous mettez en scène et vous tournez un peu en ridicule les jurés Goncourt. Est-ce que c'est un plaisir un peu blasphématoire parce qu'ils sont trop sacralisés ?
D'abord parce que j'y suis allé plusieurs fois chez Drouhan le jour de la remise du prix. Et c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. C'est une espèce de mêlée absolument incroyable. C'est pauvres gens, une dizaine de personnes soumises à des pressions absolument énormes de toutes parts, qui se retrouvent dans leur petit salon, là. Je m'en amuse, mais j'ai pas de... Comment dire ? Il n'y a pas d'acrimonie dans ce bouquin. Moi, j'essaie de m'amuser, mais parce que franchement, il y a matière à s'amuser, ce petit milieu. Écrivains, éditeurs et autres animaux, c'est une suggestion de Teresa Crémisi, qui aime beaucoup un livre qui s'appelle « Ma famille et autres animaux ». Je ne sais pas si vous avez lu ça, c'est Gérald Derel, qui est le frère de Laurence Derel, qui était un grand naturaliste, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Ma famille et autres animaux », qui est un bouquin absolument formidable. Il raconte son enfance à Corfou, avec sa mère et ses frères, sa sœur, et il raconte en même temps sa passion des animaux. Et donc, sa famille est décrite au même titre que les animaux qu'il fréquente, c'est-à-dire les tortues, les oiseaux, les machins, les poissons. Et c'est très drôle, voilà. Donc, j'essaie de m'inspirer de cette veine, modestement. Mm-hmm. Mais je vous conseille le bouquin de Gérald Derel, qui n'a pas ce titre en français, qui s'appelle, je ne sais plus, Féerie quelque chose. Féerie sur l'île, ça s'appelle. Féerie, très, très bon bouquin.
Mm-hmm. Et donc, vous avez assisté à ces séances. C'est depuis peu qu'il laisse les journalistes y assister. Je me trompe ?
Oui, vous vous trompez, il ne laisse jamais un journaliste assister.
Ah ben bah j'ai cru que vous veniez de dire, j'assiste de temps en temps aux réunions.
Ah non, non, il y a une sorte de rituel qui fait qu'il laisse rentrer les journalistes chez Drouan vers midi, mm-hmm. jusqu'au moment où les portes du salon s'ouvrent vers 13h, mais tout le monde patiente dans l'antichambre, mais mm-hmm. pendant les délibérations...
Oui, non, vous n'avez pas assisté aux délibérations.
Non. Alors je raconte une délibération, mais que j'invente
d'accord,
complètement.
Oui, totalement.
Mais non.
Et qui n'est peut-être pas loin de la réalité d'ailleurs.
C'est possible, c'est
d'accord. possible. Alors vous citez, comme on voit une espèce de panorama de la vie des lettres, notamment parisienne, vous citez notamment Frédéric Mitterrand, qui était invité au Salon du Livre, et qui dit cette phrase « Au gouvernement, je me situe entre Bécassine et Babar, avec un peu de marsupilami ». Donc c'est assez étonnant.
C'est une phrase qu'il a tenue.
Tout à fait. Et alors vous commentez, si je ne m'abuse... J'ai perdu ma page. Ah oui, voilà. Pardon, bah c'était là. On sait de l'animal de Franquin, Marsupilamus fantasy, qu'il est entièrement défini par l'une ou l'autre de ses caractéristiques. Son cri est ouba-ouba, et il a une très longue queue poilue. Or, nul n'a jamais entendu Frédéric Mitterrand émettre le moindre ouba-ouba.
Il ne m'en a pas tenu rigueur.
Donc, moi, j'aime bien cet humour qui emprunt le livre. Et est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un certain manque d'humour dans le milieu de Saint-Germain-des-Prés ? Parce que vous sous-entendez dans un livre que vous avez écrit, le petit livre des gros égaux, que l'humour est un bon remède à la grosse tête. Est-ce que ça ferait pas du bien à beaucoup de ce petit monde ?
Il n'est pas connu pour son humilité, ce petit monde-là. C'est même, il est un peu payé pour ça, quoi. Je ne sais pas. Il y a plein d'écrivains qui sont humbles. Il y a des éditeurs aussi. Puis ce sont des gens qui sont souvent en promotion, donc on ne leur demande pas de passer sous la moquette ou de s'exprimer comme un Modiano ou un Houellebecq. C'est-à-dire un très... Mais c'est un exercice compliqué.
Et je pensais surtout à l'humour dans le traitement aussi. Est-ce que vous trouvez pas que votre créneau, entre guillemets, de faire ces chroniques assez humoristiques est un petit peu abandonné, qu'on aimerait un peu plus d'humour dans le traitement, dans le journalisme littéraire ?
Oh, il y en a. Les chroniques de Chevillard sont pas...
Ah, les chroniques de Chevillard sont très drôles. Elles sont assez récentes, parce qu'avant, il n'y avait pas... Le monde des livres, ça n'a jamais été...
Mais il a aussi un blog qui est très, très drôle. L'humour s'exprime à travers un certain nombre de blogs.
Ouais.
Alors après, c'est un milieu qui a un certain nombre de particularités, c'est-à-dire qu'il est très interconnecté. On publie chez un tel, puis après un tel, on connaît machin. C'est un milieu plein de connivence, et donc on évite de se brouiller avec un tel, parce que sinon on se brouille avec tout un clan. Ça aussi, ça le définit, quoi. C'est très difficile d'ironiser sur quelqu'un sans se mettre à dos une trentaine de personnes d'un coup.
Oui, parce que par capillarité, ça touche tout le monde, ouais.
Donc, moi qui n'ai aucune prétention littéraire et qui ne vise aucun prix littéraire, je peux me le permettre. Mais il y a plein de gens qui... Et j'ai écrit pas de roman en plus, je suis pas écrivain. Donc, mais j'imagine que pour un écrivain, c'est beaucoup plus dur, parce qu'à partir du moment où on ironise sur son milieu, ça veut dire se couper des prix. Or, les prix, c'est quand même un facteur de vente important, qu'on le veuille ou non. Quoi. Mm-hmm. Les frères Goncourt n'avaient pas ce problème. Et Julien Gracq non plus.
Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Et alors, vous mentionnez le blog d'Éric Chevillard. Est-ce que vous... lisez des blogs littéraires, et est-ce que vous croyez en cette nouvelle forme de critique que Pierre Assouline avait beaucoup brocardé récemment? Il s'était fait un peu crier dessus.
Non, je ne vois pas beaucoup. Je suis assez rétif. Moi, j'aime bien le papier, j'aime bien les livres. J'ai du mal à, comment dire, à aller vers les écrans. Mais je pense qu'il faudrait que j'y vienne un jour. Mmh. Je condamne pas du tout. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se font. Par exemple, le roman devrait être mort aujourd'hui. Ça a été un genre roi au XXe siècle, mais bon, il a fait son temps. Comme le théâtre était un genre roi au XIXe, et aujourd'hui, c'est quand même un peu marginal. Et il y a beaucoup de monde qui se trouve surpris par le fait que le roman résiste. Ça reste un truc... d'abord de prestige, hein. Vaut mieux faire un roman qu'un essai de sociologie. Et puis on voit toujours des choses un peu nouvelles arriver. Aujourd'hui, disons qu'on est dans la fiction biographique ou l'autofiction documentaire. C'est un peu le genre du moment. C'est Patrick Deville qui fait un truc sur Yersin. C'est-à-dire, il est dans le livre, mais il y a aussi ce côté documentaire. Bon, en gros, c'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Alors la question, c'est, mais pourquoi le roman résiste? Pourquoi on n'est pas passé à autre chose? Et la réponse, c'est que il semble qu'il y ait quelque chose de consubstantiel à l'être humain, c'est qu'il faut qu'on lui raconte des histoires. Et le roman reste un bon moyen de raconter des histoires. Et pourquoi c'est consubstantiel à l'être humain? Alors après, il y a des théories qui remontent jusque... Enfin, qui empruntent à l'évolution, et moi qui m'amuse beaucoup, mais qui sont peut-être vraies, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps, à l'époque des cavernes, les gens qui racontaient des histoires fédéraient des auditoires comme ça. Or, à cette époque-là, qui était assez rude, les groupes avaient des chances de survie plus importantes que les individus isolés. Et donc l'histoire, en tant que facteur de cohésion d'un groupe, était un facteur de, comment dire, de survie. Et cette chose assez lointaine, qui remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années, eh bien, survit d'une certaine manière à travers notre goût pour le roman et notre goût à écrire des romans. Mm-hmm. C'est une théorie, mais je la trouve belle et peut-être oui, assez fondée. Mm-hmm.
Mais finalement, est-ce que le roman, ce n'est pas aussi une autre forme d'un récit comme l'épopée qu'il y avait dans l'Antiquité, qui a la même substance?
Ah oui, elle a la même fonction, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. Sauf que bon, les formes ont évolué. Ouais. Alors après, qu'est-ce qui va passer pour le roman? Il y a plein de thèses intéressantes, mais il y a notamment celle d'Antoine Compagnon, qui est professeur au Collège de France, qui a la chaire de littérature contemporaine, et qui est pas rétif à Internet, puisqu'il a un blog, et il lit des bouquins sur tablette, etc. Et lui pense, comme d'autres, que le prochain genre phare, ça sera un genre hybride entre le texte et les possibilités que permettent le multimédia. Alors ça sera pas simplement un texte avec des liens et il y a des séquences vidéo qui s'ouvrent. Ça sera des choses un petit peu plus complexes, un peu plus scénarisées, peut-être à la frontière du jeu vidéo, de la littérature, de la photo. Mm-hmm. Alors pour l'instant, on n'a pas encore vu de grandes œuvres dans ce domaine-là. Peut-être qu'on n'est pas préparé non plus à les voir. Mais il n'est pas impossible que dans les 50 prochaines années, les grandes œuvres, j'ose pas dire littéraires, parce que ça sera un peu plus que ça, seront des œuvres un peu hybrides de ce genre-là, où on continuera à raconter des histoires avec des formes novatrices, et qui ne seront plus simplement des caractères noirs sur du papier blanc. Ça sera peut-être plus sophistiqué. Voilà. Bon, il va falloir peut-être attendre une ou deux générations, mais ces gens qui sont nourris aujourd'hui aux bonnes séries américaines et aux bons jeux vidéo auront envie un jour ou l'autre d'avoir un peu de littérature là-dedans et des formes un petit peu nouvelles. Et ça va être excitant, mais est-ce que... quelle sera la première génération à profiter? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça sera celle-ci, mais peut-être la prochaine.
Mais ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'écrivains qui, aujourd'hui, regardent les séries américaines et s'en inspirent. Je crois que Philippe Djian est un grand friand ce genre de série. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez juste avant. Est-ce que si la photo avait dû faire irruption dans le champ littéraire, elle ne l'aurait pas fait plus tôt au moment de Nadja de Breton qui avait créé la brèche? On dirait qu'elle s'est refermée.
Oui, encore. Annie Ernaux a fait un joli bouquin il y a 3-4 ans. Alors, c'est pas systématique, mais les formes hybrides, ça pourrait pas être simplement un texte et des photos. Je pense que ça sera des choses plus complexes que ça, des choses qui seront sur des tablettes, mm-hmm. où il y aura peut-être un entrelacement plus serré qu'une mm-hmm. simple juxtaposition de médias. Quoi.
Mais j'ai l'impression, et détrompez-moi si vous pensez le contraire, mais qu'il y a en littérature, une espèce d'esprit de, pas de caste, mais quelque chose qui fait qu'on a envie de rester entre soi dans le texte et pas de se lancer dans le vertige de l'image et de faire d'interpénétrer les deux comme ça.
Alors ça change hein, quand même. De plus en plus, il y a un certain nombre de festivals qui sont créés, Manosque ou Toulouse, là, le Marathon des mots, ou la Maison de la Poésie à Paris, où on essaie de faire sortir les livres et les écrivains de leurs bouquins pour les faire monter sur scène, des scènes littéraires. C'est-à-dire, il y a des lectures musicales, il y a des siestes littéraires, il y a beaucoup de formes hybrides qui apparaissent. Et il y a certains écrivains qui arrivent à sortir un peu de leur texte, que ce soit, je sais pas, François Bon, Christine Angot, des gens comme ça, d'autres qui n'y arrivent pas. Mais là aussi, il y a un truc très intéressant qui se passe, c'est que la littérature tend à devenir une sorte d'art vivant. Dans un certain nombre de... Et il y a des choses très très réussies. Moi, j'ai vu des choses... des lectures de Victor Hugo avec un joueur de oud, par exemple, c'était un truc formidable. Il y avait un vrai sens à ce genre de performance. Quoi.
D'accord, mais un sens. Et est-ce que cette ouverture, cette hybridation, ce qui lui manque pour l'instant, c'est pas un public pour lui permettre d'exister à plus large échelle?
Oui, bah alors c'est comme tout, les publics se forment, hein, c'est une interaction intéressante entre des nouvelles formes qui arrivent et puis des nouveaux lecteurs. Au début, ça peut paraître ridicule, ça peut être pour un public extrêmement restreint, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui démarre et en l'espace de quelques années, quelque chose change. Et à mon avis, on n'est pas loin de ça, de l'arrivée d'un nouveau public et de nouvelles formes. Bien malin serait... celui qui pourrait exactement dire ce qui va se passer, quelles formes vont émerger, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que quelque chose va se passer. Là.
Et alors pour revenir simplement sur les blogs littéraires, parce que vous m'avez parlé du numérique, mais pas tellement de la caractéristique des blogs littéraires qui est de faire naître une critique des lecteurs, et de n'importe où en fait. Est-ce que ça vous intéresse, ça vous...
Oui, ça m'intéresse. Moi, je suis pas critique, hein, donc oui. Mais je regarde ça comme tout le monde. L'Internet en général a été perçu comme une providence, alors que par beaucoup de biais, c'est aussi une menace. Toutes les technologies, quand elles arrivent, il y a d'abord beaucoup de... On les encense et puis ça prend du temps pour s'apercevoir qu'elles ont des travers aussi, ces technologies. Et que on se met à regretter les discours absolument enthousiastes qu'on a eus. Je veux dire, l'automobile, c'était formidable quand c'est arrivé. Après, on s'est aperçu que ça défigurait les villes, ça tuait les gens, ça polluait, etc. Donc, il faut se méfier quand une technologie arrive et à prendre un peu de recul. Enfin, c'est difficile au début, mais enfin, être prudent. Voilà, être prudent. Internet échappe pas à ça. Internet permet des trucs fantastiques, et puis Internet... à des travers qu'on n'avait pas vus. Par exemple, en matière de littérature, c'est que si on laisse les choses faire comme elles se font aujourd'hui, demain, Amazon et Google contrôlent toute la chaîne. Ils contrôlent la critique, ils contrôlent la diffusion, ils contrôlent même l'édition, puisque Google s'y met, et Amazon. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ça peut être absolument terrifiant. Et les 555 romans édités chaque année en France, on sera sur le point de les regretter, parce que là, il y aura une sorte de rouleau compresseur, les mecs tiennent toutes les manettes. Et ça, on ne l'a pas perçu. Au début, Internet, on se disait, c'est formidable, on va pouvoir écrire son roman, chanter les éditeurs, les libraires, les machins, les vendre directement sur Internet. Ça, c'est une vue d'esprit, c'est une vue d'ingénieur. Mais la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les quelques personnes qui arrivent à vendre directement leurs textes sur Internet, c'est ou bien des gens qui font des best-sellers, ou alors des coups de bol du genre 50 nuances de grès, pour la raison qu'on connaît. Quoi. Mais les avantages qu'on voyait à Internet, en fait, n'en étaient pas. Et les travers du média sont apparus tardivement. Elles apparaissent aujourd'hui. Et ça crée de vraies inquiétudes.
Est-ce que vous pensez que les maisons d'édition ont un peu pris la mesure de cette déferlante qu'est Internet?
Oui, parce qu'elles ont l'exemple de la musique. Enfin, là, moi, je dis des choses évidentes. Quand on a vu ce qui s'est passé dans le domaine de la musique, c'est-à-dire où les éditeurs de musique se sont retrouvés vraiment très très mal, chat échaudé craint l'eau froide. Donc derrière, les éditeurs de textes sont arrivés beaucoup plus, préparés d'une certaine manière. Même s'il y a encore 4-5 ans, ils étaient totalement dans le flou. Mais aujourd'hui, ils sont plutôt préparés, je trouve. Simplement, ils sont face à des géants de l'Internet américain. Et ça ne sert à rien de créer des plateformes communes pour diffuser des livres si tout le monde va sur Amazon.fr. Donc, c'est pas gagné. Mais je pense que les enjeux du numérique, ça y est, ils sont
bien
saisis. Par ailleurs, il y aura... on voit aux États-Unis que la croissance du livre numérique a atteint un palier aujourd'hui. Donc le livre papier ne va pas mourir aussi vite que ça. Quoi. Le livre numérique a un créneau sur les usuels, sur les classiques, etc. Mais sur la littérature contemporaine, je ne sais pas. Et là, je n'ai pas de chiffres. J'aimerais bien savoir, par exemple, dans les nouveautés là, qui sortent, quelle est la part du papier, quelle est la part de la vente en numérique, mais je ne la connais pas. Si quelqu'un la connaît.
Peut-être dérisoire.
Hein. Dérisoire, ouais.
J'avais entendu que L'Art français de la guerre, qui avait été pris Goncourt, s'était vendu à 30 exemplaires en numérique ou quelque chose comme ça.
Non, donc, mais c'était il y a 2 ans, c'est-à-dire une éternité.
C'était il y a 2 ans, c'était il y a très longtemps, c'est vrai. Bon, pour revenir un petit peu au livre, donc on lit un pastiche de Michel Houellebecq dans votre livre. Et vous avez un certain talent, il y a un talent qui rappelle celui de Pascal Fioretto, qui est le spécialiste du pastiche, je ne sais pas si vous le connaissez.
Si.
Qui a écrit donc « Et si c'était niais » et « L'élégance du maigrichon », qui sont 2 livres très drôles. Et donc j'ai une question assez littéraire au sujet de ce pastiche. Est-ce que pour vous, un écrivain n'est pas justement quelqu'un qui a son propre langage, bon, alors, au-delà du cas de Houellebecq, un langage marqué et reconnaissable?
Bah oui, oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui a une voix, qui donc a priori plus facile à pasticher que d'autres. Enfin, Proust a fait des pastiches de Flaubert, donc c'est un exercice salutaire d'abord de faire des pastiches. Puis ça veut dire que la personne pastichée a une personnalité, disons littéraire, bien définie, ce qui aide. Hein.
Mais c'est un peu le paradoxe du pastiche, c'est que on aime bien pasticher des auteurs parfois un peu mauvais, et pourtant, ils ont une identité.
Oui. Oui, on peut avoir une identité de bon, une identité de mauvais. Les pastiches de Duras sont formidables, parce qu'elle n'était pas loin de l'autopastiche, Duras. Donc c'est peut-être plus facile. Par contre, je ne sais pas, j'essaie de trouver des écrivains contemporains impastichables.
Carrère, c'est difficile.
Hein, quoi ?
Ah, vous pourriez pasticher.
Ouais,
c'est peut-être un pastiche sur le long terme, mais sur une phrase. C'est difficile de reconnaître Carrère.
Enfin, il est dans un style bien défini, en tout cas.
Ouais. Parce que Fioretto, donc, qui est le grand pasticheur français, pour lui, il le considère comme un exercice d'admiration. Alors, il pastiche Modiano, bon, c'est très reconnaissable, très drôle. Mais il dit que c'est vraiment parce qu'il adore...
Enfin, moi, je n'ai pas de talent de pasticheur particulier, simplement Houellebecq.
Ça, bon, c'est réussi.
Houellebecq, c'est...
Tu trouves que c'est facile ?
Oui, c'est facile. Ah oui, c'est très facile. Ouais.
Alors, je voulais vous demander si le plaisir de lecture ou la jouissance de lecture dont vous parlez dans votre... qui est le titre de votre dernier livre, est-ce que c'est incompatible, finalement, avec toutes ces petites cuisines éditoriales que vous peignez ?
Moi, je crois que ça n'a rien à voir. La vie d'un petit milieu comme Saint-Germain-des-Prés et puis la littérature sont deux choses relativement disjointes, sauf que l'un produit l'autre. Mais la littérature est un continent bien plus large que les petites rues de Saint-Germain-des-Prés. C'est autre chose, quoi. J'ai aucune envie de me moquer de la littérature. Autant je peux me moquer des mœurs du milieu, mais la littérature, non. C'est quelque chose qu'on respecte, évidemment.
Donc vous êtes attentif à ce que font des petites maisons d'édition Est-ce qu'il y a une maison d'édition dans ces dernières années qui vous a paru particulièrement intéressante ?
Moi, j'ai été assez séduit par la production de Verdier, oui.
Verdier, oui.
Ouais, Verdier, mm-hmm. Des auteurs, Mathieu Riboulet mm-hmm. ou
Venet, qui vient de Gallimard.
Oui, ouais, ouais, bah, y en a pas mal aussi ouais, hein, qui vont ouais. d'une maison à l'autre. Mais, je...
aussi, ouais.
mais bon, moi, c'est aussi par goût. J'aime bien des textes relativement écrits, j'allais dire classiques, mais je n'aime pas un bouquin qui serait un échange de textos. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Quoi. J'aime bien le style. Voilà, j'aime bien ouais. le styliste.
Bah, ouais. Ça tombe bien, je voulais vous demander ça. Est-ce que vous pensez que la modernité et les essais un peu... qui ne sont pas toujours expérimentaux dans le sens péjoratif, mais les essais d'introduire le, comment dire, la nouvelle communication, l'hypercommunication dans la littérature, pour vous, c'est voué à l'échec ?
Bah non, 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 je ne suis pas non plus réactionnaire.
Non, parce
non, non, non textos, je crois qu'il faut, il faut rester ouvert, mais dans les essais qu'on fait aujourd'hui pour rénover le roman, il y en a qui sont juste pathétiques. Mmh. Enfin, c'est mon opinion, qui n'est pas, sans doute pas partagée par tout le monde, mais mmh. et puis il y en a qui valent le coup. Alors, là, et là, il faudrait que je cite un exemple de truc réussi, et ça ne me vient pas tout de suite.
Je peux vous laisser un peu de temps, si vous voulez.
Non, mais par exemple, non, au niveau, quand Le Voyage au bout de la nuit de Céline est sorti, en disant qu'il y avait quand même des libertés formelles qu'on n'avait pas vues jusqu'à maintenant. Alors on aurait pu réfuter tout ça en bloc d'emblée, en disant mais qu'est-ce que c'est que ce type qui remplit son texte d'onomatopée, qui finit pas ses phrases, qui... Et c'est peut-être la réaction qu'on aurait eue à l'époque. Et on aurait eu franchement tort, parce qu'aujourd'hui on voit tout ce que Céline apporte dans la continuité de la littérature. Donc il faut se méfier de soi-même.
Oui, oui. Donc vous ne trouvez pas que ce soit nécessaire d'essayer de saisir un peu le monde comme il va ? Vous ne pensez pas que Balzac aurait écrit en texto, par exemple, s'il avait eu un téléphone portable, il n'aurait pas...
C'est des questions un peu vaines, parce qu'on ne va pas exhumer Balzac. Non, non, non,
ouais.
Mais... comment dire On est tous le produit d'une histoire, d'une formation, de lecture. Et puis, on a un âge aussi. Et je pense que, moi qui en ai 56, il y a un certain nombre de portes que j'arriverai plus à ouvrir. Parce que, sans avoir totalement l'œil dans le rétroviseur, je pense que j'ai été formé par des auteurs. Et je vais, d'une certaine manière, y rester fidèle. Quoi. Et donc, ça demande un état d'esprit sans doute plus neuf que le mien pour détecter des nouvelles formes. Mais comme je ne suis pas critique et que je vais plus volontiers vers les classiques que la littérature contemporaine, ça ne me pose aucun problème.
D'accord. Bon, on va conclure, Édouard Launay, en vous demandant un petit pronostic pour le prix Goncourt.
Alors, moi, j'en ai aucun, mais j'en entends. Alors, on m'a parlé d'un type qui s'appelle, comment, je n'ai pas lu son bouquin, Vergès, non Verger, ouais, voilà, il paraît que à la fin, les prix littéraires, vous savez comment ça se passe, donc chacun défend son truc, plus ou moins un bouquin de chez son éditeur, et puis quand ça bloque, alors il faut trouver des candidats de consensus. Quoi. Voilà.
D'accord.
Ce qui fait qu'un certain nombre de bouquins ont été récompensés comme ça, parce que les favoris des uns et les favoris des autres n'arrivaient pas à percer, donc on extrayait un type, parfois qui n'était même pas sur la liste de la dernière sélection, pour le faire monter. Comme ça que Mathieu Riboulet a eu la chance d'avoir d'avoir le prix décembre l'année dernière, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire voter pour Angot, quoi. C'est pas joli joli, mais de temps en temps ça donne une chance à un écrivain qui était mal parti dans cette course d'obstacles.
Merci beaucoup d'avoir été avec
Merci.
Nous. Merci d'avoir assisté à cette séance.